Salut Marc, salut les Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast underground qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch underground. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. Je suis votre dinosaure, que dis-je, suis votre luchasaurus des podcatchs. Je suis votre tonton Chris. Et je suis aujourd'hui avec mon partenaire tag team habituel, inamovible, indestructible, indécrottable, le bon et le vieux papy. Comment ça va, papy?
Bonjour les petits enfants underground. Bonjour tonton. Comment ça va? Ça va? Moi ça va bien. C'est la fête.
Ton EHPAD est en mode underground aujourd'hui?
Ah ouais, je suis à fond dans l'underground. Là, je vais undergrounder, mais dans tous les sens.
Alors pourquoi l'undergroundation? Parce que, peuple de catch-up, aujourd'hui nous sommes là pour vous reviewer le Monday Night Raw du 3 août 2020, qui se déroule au Performance Center, comme de bien entendu. Suite à la semaine dernière, on nous avait annoncé différentes choses. Il y avait 2-3 matchs qui avaient déjà été annoncés au préalable. Donc, on attend un show de feu cette semaine.
Folie.
La folie dans le stade, les amis, en direct live de la team catch-up. Nous allons donc vous couper cela. On est bien dans le show rouge et il faut que ça bouge. Et ça commence avec un show qui a la salle qui s'éteint. Panne de courant.
Que voilà. Se passe-t-il ?
Voilà comment le Raw dans la folie et dans la bonne humeur et dans les paillettes. Maintenant, en fait, la salle s'éteint, il y a un problème. Les commentateurs n'auront même pas le temps de poser les questions. Apollo Crews, derrière, va faire son entrée directe avec une nouvelle musique à noter pour le champion des États-Unis, le vrai champion des États-Unis. La salle va s'éteindre à nouveau. Alors là, du coup, Tom Phillips, il a retrouvé un petit peu la parole. Il va nous expliquer que les conditions climatiques sont la raison des problèmes de diffusion. Et voilà, rien. Moi, j'avoue que sur l'instant, je me suis dit, ah bah oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? MVP, lui, fait son entrée. Et ça va être le match qui va désigner le véritable champion des États-Unis. On est d'accord, papy, là-dessus ?
Exactement, c'est le moment de trancher.
Voilà. Donc, on va trancher dans l'art. MVP va bien évidemment nous dire avant le début du match que Apollo Crews n'est pas le véritable champion car il était forfait lors d'Extreme Rules. Mais de toute façon, ça change rien du tout à l'affaire. On a un United States Championship entre les deux qui commence et on va avoir un match qui va durer. Alors, je précise évidemment la présence du Hurt Business dans son ensemble puisque Shelton Benjamin, Bobby Lashley sont présents ringside. On va avoir un match de 11 minutes 35. Avec un Crews bien remis qui semblait apparemment être covidé et qui a été quand même absent un long moment, d'où ce fameux forfait au show de l'horreur. Et je l'ai trouvé plutôt bien en forme, plutôt fit. Le match a été assez équilibré, mais finalement Crews va quand même remporter le match avec son Blue Thunder Driver. Il va repartir avec les deux ceintures. Et on pourra noter que durant le combat, il y a eu quand même toujours des problèmes d'éclairage. L'ingénieur lumière semblait être un peu en galère. Et tout au long du match, on aura un petit peu ça. Derrière, on aura quand même le champion un peu en interview, voilà, qui confirme son titre. Il nous explique qu'il a très mal pris, et on le comprend, le fait qu'MVP se pavane avec un autre titre pendant que lui, il n'était pas là, quoi. Et alors que ses propres enfants lui demandaient s'il était toujours le champion. C'est dur, hein.
Oh là 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 là.
Donc, il avait promis à ses gosses de ramener le titre. Il est comme ça, le Apollo. Et il va leur donner la ceinture ancienne. Comment la recycler, c'est parfait. Je pense qu'ils seront ravis, ces gosses, à Apollo Crews. Et du coup, il remercie MVP pour le design de la nouvelle ceinture. Et il a bien raison, cet homme. Pendant ce temps, le MVP, lui, il était resté un peu aux abords du ring. Il est un peu pas content, hein, comme Papy peut l'être parfois. Et donc, il se plaint. T'as vu, hein, il se plaint de ne pas travailler dans des conditions de sécurité optimales. Et du coup, il va blâmer l'ami Crews de lui avoir repris le titre. Et qu'est-ce qu'il fait ? En finish, il lui donne rendez-vous à SummerSlam. Allez, hop, on est le 3 août. Hop, les amis, on se book pour le 23 août. Hop, hop, hop. Allez, championnat US pour SummerSlam. Roule ma poule, c'est emballé, c'est pesé. Apollo Crews versus MVP pour le titre US. Papy, comment as-tu... gérer cet opener d'euro.
Bah, c'était un opener qui devait régler les comptes qui n'a pas pu être fait avant. Donc effectivement, Apollo Crews qui était. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le Covid ou c'était juste une suspicion par rapport à un état grippal. Mais bref, du coup, il était out pendant quelques temps sans avoir vraiment de blessure. Donc ce qui fait qu'effectivement, quand il est revenu, il est en pleine forme, le garçon, là, il avait envie de défoncer des gueules et c'est ce qu'il a fait. Bon voilà, ça règle le problème. Ça permet aussi de faire la transition avec la nouvelle ceinture, puisque Apollo, dans son interview post-match, il dit qu'il va bien garder la nouvelle ceinture et que l'ancienne, en fait, il va l'exposer chez lui. Ça sera, voilà, c'est lui qui l'aura enterré, donc ce sera le dernier détenteur, donc c'est lui qui va la garder. Et puis, ouais, bah ça permet de passer aux autres choses. Alors, le Hurt Business perd un match, mais bon, c'est comme on en a plusieurs fois discuté. MVP, c'est vraiment le maillon faible du Hurt Business. Donc, quelque
Oui.
part, ça me choque pas trop qu'ils perdent. Et quelque part aussi, vu que j'ai pas trop envie de le voir défendre la ceinture, c'est pas plus mal qu'il perde la ceinture, quoi. Donc, enfin, qu'il la perde, qu'il ne la gagne pas, vu que. Il n'a jamais vraiment été détenteur. Donc, ouais, bon, voilà. Et puis, mystère, c'est quoi ces éclairages là? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a de la tempête? Est-ce qu'il y a quelque chose de mystérieux? Je ne sais pas. Voilà, je suis tout ouïe et
La
tous yeux écarquillés.
météo est capricieuse à Orlando.
Exactement. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il?
Et justement, on retourne en coulisses pour savoir ce qui se passe. Et à ce moment-là, quand on arrive en coulisses, qui est là? C'est les rôles modèles. C'est donc Bayley et Sacha Banks qui sont là-bas avec les ceintures. Là, hein. Ça se pavane grave, quoi, hein, avec Charlie Caruso, qui va leur demander d'ailleurs si elles vont défendre tous les titres à SummerSlam. Je trouvais que c'était une question intéressante, Charlie. Merci beaucoup. Parce qu'effectivement, ça serait sympa. T'imagines, ça ferait 3 matchs chez les femmes à SummerSlam, le titre, les 3 titres féminins là, à défendre. Avec les deux mêmes catcheuses, ça pourrait être une nouveauté d'ailleurs. Je me demande même si ce ne serait pas quelque chose d'historique.
Chez les filles, oui, ça serait historique.
Ouais, je crois que chez les filles, ça serait un truc historique. Ouais. Et du coup, elles vont être coupées par une petite vidéo d'Asuka qui va nous faire une promo en japonais. Donc, comme je peux vous assurer que Papy a pas travaillé son japonais cette semaine, donc du coup, on ne saura pas exactement ce qu'est dit Asuka. Bon, Sacha et Bayley vont se plaindre un peu d'avoir été coupés, mais à ce moment-là, on va avoir Shayna Baszler qui va débarquer, qui semble en avoir terminé avec Nia Jax, qui, in kayfabe, est censée être suspendue, si je ne m'abuse. Et voilà, et elle prévient la championne d'Euro qu'elle arrive, quoi, qu'elle est on the way. Et elle va lui coller un bon coup de poing dans la gueule.
Bonne patate.
Voilà, la patate réglementaire. Voilà, alors juste, le segment s'arrête là-dessus. Il y a une porte qui nous est montrée juste derrière, qui est ensuite montrée, et on entend de la musique à l'intérieur. Voilà, et ça s'arrête comme ça. Alors, Papy, Bayley, Sacha, dans leur rôle, au taquet, championne, ça te parle?
Oui, bon, là c'est. Il y avait eu mon coup la semaine dernière par rapport à la façon dont s'était déroulée la prise de titre de Sacha. Bah, maintenant que c'est fait, bah, voilà, elle va être énervante. Asuka va revenir sur le devant de la scène. Là, il prévoit même la suite avec Shayna Baszler qui revient aussi se mettre dans la boucle. Donc, ouais, bah, voilà, elle était énervante. Elle a pris une bonne patate dans sa gueule. Tout le monde est content.
Shayna, tu penses que de toute façon c'est sa place voilà, hein, dans le main event féminin quoi, pour le
Bah
titre.
ouais, enfin, le problème c'est que je me demande si elle peut faire autre chose que main eventer Shayna Baszler en fait. Parce que hormis en heel qui casse des gueules vraiment violemment, je n'ai pas souvenir d'avoir vu faire autre chose en fait. Et je suis pas sûr qu'elle soit capable de faire autre chose parce que finalement elle n'a pas un in-ring non plus totalement ébouriffant. Elle a voilà, un petit peu de micro, mais elle a une voix vraiment pas terrible. Enfin, je trouve qu'elle a pas une voix qui la rend super crédible au micro, donc au final, les quelques moments dont on se souvient, c'est les moments où elle est ultra dominante en fait. Donc oui, il faut qu'elle soit dans le main event pour donner la pleine mesure à son personnage, je pense.
Ouais, je te rejoins là-dessus. Bon, alors on enchaîne avec toujours le backstage. Hein, il y aura pas mal de backstage. Voilà, on va y croiser Kevin Owens, qui va y croiser les Iconics, qui tente un peu de s'incruster dans le Kevin Owens show, mais il leur dit que bah non, ça va pas être possible ce soir, quoi, parce qu'il a déjà un invité prévu.
Oui.
Finalement, il arrive sur le ring, donc on s'attend, vu qu'il a refoulé les Iconics, on s'attend à un invité assez incroyable. Et on s'attend en particulier à Shane McMahon qui a été annoncé avec force de vidéo package.
Oui.
Du coup, on s'attend, je crois, un peu tous effectivement à Shane McMahon. Mais qui c'est qui débarque? C'est Ruby Riott.
C'est
Voilà,
pareil.
Ruby Riott débarque au Kevin Owens Show. Alors, il va lui demander ce que ça lui a fait de battre Peyton Royce la dernière fois, si elle est contente, tout ça, voilà, qu'elle a pris un grand plaisir à la battre, voilà, on ne s'attendait pas à autre chose de toute façon. Elle regrette de ne pas avoir pu remporter ça et puis de fêter ça finalement avec la copine Liv Morgan. Et Owens, bah, il va lui dire, mais voilà, Owens, c'est un homme magique, un homme gentil, et il dit qu'il va pouvoir réparer ça parce qu'il a également invité Liv Morgan. Donc, on a Liv Morgan qui débarque. Wouh, il y a une ambiance de feu dans ce Kevin Owens show. Ça se regarde un peu de traviole. Voilà. Owens, il explique qu'il sait ce que ça fait d'être trahi, de trahir avec les amis et tout ça. Mais qui se pend que la Riot Squad, quoi, qui était à ses débuts, et ben, il faudrait que ça recommence, quoi. Il voudrait arranger les choses, que les deux lutteuses s'expliquent. Donc, c'est ce qu'elles vont faire, on va dire.
On va dire.
On va dire que c'est ce qu'elles vont faire. Voilà. Finalement, on nous rappelle un peu l'histoire du Riot Squad avec le départ de Sarah. Voilà. Ruby Riot, elle demande à Liv de lui laisser une seconde chance. Voilà, c'est vraiment. Et avant que Liv ait eu le temps de répondre à cette question, les Iconics débarquent. Peyton Royce, elle dit qu'elle en a marre, quoi. Voilà, quoi. D'entendre les deux nanas chialer, voilà. Et ça chiale encore. Elle en a marre de voir Ruby se vanter de sa victoire. D'ailleurs, je la rejoins un peu Peyton Royce là-dessus, parce que bon, c'est vrai qu'elle a fait une victoire, elle n'a rien fait d'autre depuis. Elle rappelle que les Iconics, elles ont gagné le titre. Et qu'elles seront toujours les meilleures, parce qu'elles sont réunies, voilà, united. Et voilà, et du coup, tout ça, ça nous emmène, ça se chauffe au milieu du ring pendant le Kevin Owens show, ça va se prendre des gifles, même Kevin Owens va prendre des gifles aussi, d'ailleurs.
Ah, le pauvre Kevin.
Ouais, le Kevin, en fait, se retrouve au milieu de la mêlée et va se prendre des baffes par l'Iconics. Tout ça, ça va nous emmener à un match, hein. On va évacuer le Kevin Owens show. On constate qu'il y a eu beaucoup de problèmes de micro encore pendant ce segment avec Kevin Owens. Derrière, on a un tag team match. Alors attention, le feu, hein. Tenez-vous bien, accrochez-vous bien à vos sièges, peuple de catch-up. Liv Morgan et Ruby Riot battent les Iconics en 2 minutes 22.
Génial.
C'était énorme, c'était fantastique. Évidemment, hein, papy, sur quoi gagne le Riot Squad ce match?
Sur une technique ancestrale qui se transmet, voilà, de génération en génération de catcheuses.
Voilà.
Le roll-up.
Tout à fait, le roll-up. Voilà, victoire de Ruby Riot et de Liv Morgan qui redeviennent à nouveau copines pour la vie et qui remportent le match. Voilà. Ton avis sur cette interlude féminin de 2 minutes 22
en Alors, fait, le match.
Plus long que ça en lui-même.
Oui, parce que en fait, effectivement, le match en lui-même, bon, c'est un match, comme souvent, comme je le dis, la low card, faut que ça passe. C'est pas terrible, mais bon, faut que ça se fasse. Voilà,
Il faut que Jeunesse se fasse.
Exactement. En plus, effectivement, en l'occurrence, Jeunesse, vu que je crois que Liv et Ruby, c'est les deux plus jeunes côté Raw en termes catcheuses. Parenthèse refermée. Par contre, le reste où ça a chialé, j'ai trouvé ça insupportable, quoi. Alors la partie tant Kevin Owens, j'irais à peu près le truc, ça allait. Mais alors vraiment, t'as une espèce de petit dialogue entre Liv Morgan et Ruby Riot où elle. Mais non, mais je voulais pas te laisser. Mais non, si. Mais non, mais tu m'as. On s'en fout. J'étais bien d'accord avec les Iconics qu'elles sont arrivées pour dire qu'on en avait rien à foutre de leur pleurnicherie. Enfin, bref, je sais pas comment on dit ça.
Pleurnicherie.
Pleurnicherie, exactement. Oula, ouais. J'ai un peu longé le mot, là. Non, c'est ignoble, cette partie de.
Ah ouais, ouais.
De
toute
façon, de base, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec un catcheur qui pleure. Il peut pleurer, genre, il prend sa retraite, c'est émouvant, et ses enfants qui viennent. Là, je comprends, tu vois, où ils viennent gagner un titre, un super important. À la limite, je comprends, tu vois, la pression retombe et tout. Mais alors, deux filles badass ou deux mecs bodybuildés qui sont dans un ring et à chialer en disant mais t'étais censé être ma copine, pourquoi t'as fait ça et pourquoi t'as mangé mes Smarties, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Arrêtez.
Ouais.
C'est mal joué et voilà, et c'est pas ce qu'on veut vouloir faire, donc arrêtez de chialer, ça n'a aucun intérêt.
Puis les nanas, elles sont en mode gothique, maquillées comme des camions, tu vois, tu te dis bon, un peu de badassitude la merde là. Quelque chose d'un peu rock'n'roll, quoi, d'un peu gothique, quoi. Ben non, même pas. Non,
que tu comprends,
papy. T'as pas été sympa, papy, à la dernière review de SmackDown, je m'en rappelle, hein.
Ah oui, mais non, parce qu'on avait aussi d'autres gonzesses qui chialent à SmackDown là, avec Mandy et sa copine Sonia. Là.
Elle se tire les cheveux.
tire les cheveux en plus. Non, mais sérieusement, un peu de respect quand même pour ces catcheuses, ces professionnels. Là. Arrêtez de les faire chialer, là. Mettez des mentales.
On a un peu l'impression que du coup, la top card au niveau féminin, elles ont droit à un beau package avec des gros matchs, des gros machins, etc. Mais qu'effectivement, la low card féminine, elle est cantonnée au tirage de cheveux et au...
La low card féminine, c'est les divas en fait. T'as les women, les divas en bas de carte.
C'est un peu ça, ouais. Voilà, on est un peu dans ce délire là. Donc voilà, bon allez, on va quitter hein, les iconics et tout ça.
Ciao.
On va rester dans une touche féminine, mon bon papy, mais on va retrouver la magnifique Charlie Caruso qui nous annonce que les problèmes d'alimentation qu'il y a depuis le début du show ne sont pas dus aux conditions climatiques actuelle, mais à la chute à l'arrière d'une box sur les câbles de connexion. C'était très précis, la promo de Charlie Caruso, attention. À ce moment-là, on a MVP qui débarque et qui comprend pas comment ça a pu causer la perte de son titre, quoi. Et Charlie, elle lui dit que non, mais il n'y avait pas de problème, de toute façon, qu'il ne s'inquiète pas. Apollo Crews, il a accepté le défi de MVP pour SummerSlam. Le match est booké, voilà, pour le 23 août. C'est réglé, pendant 3 semaines, le titre US, on le mettra à la cave et on attendra qu'il se passe quelque chose. Derrière, il y a Shelton Benjamin qui débarque et qui vient expliquer à son manager que sa ceinture 24-7 lui a été volée. Voilà, un vol dans le locker room à Orlando. Un petit commentaire à faire sur toujours les problèmes d'alimentation du début du show.
Ah ouais, mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se dévoiler. Là. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Ça ne serait pas que le vent ? Parce que ce n'est pas le vent qui fait tomber les caisses. Hein. Moi, je pense qu'il se passe quelque chose. Oh là 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 là, je n'en peux plus de suspense.
Ah ouais, nous restons dans le suspense et nous restons dans les backstage, puisque là, maintenant, on passe à l'arrivée du bel homme, du psychopathe écossais, du champion de Drew McIntyre. Voilà, il est sur le ring, il nous dit que Randy Orton, il sait comment attaquer au bon moment. Bah voilà, c'est une vipère, quoi, hein, donc il connaît les points faibles, les points vulnérables de ses adversaires. Mais Drew McIntyre, depuis lui, il a appris de ses erreurs, quoi. Il ne se laissera plus avoir. Il nous rappelle un petit peu souvent que il y a 10 ans, Vince il est venu le chercher, il lui a dit qu'il était le chosen one. Depuis le temps il a passé, les choses elles se sont pas passées comme prévu. Bah non, parce qu'à la WWE ça se passe jamais comme prévu. C'est Randy Orton qui lui a enquillé les titres, enquillé les ceintures, enquillé le palmarès pendant que Drew McIntyre, il était en mode 3MB, en mode chômage,
voilà.
Impact, et puis finalement, le revival, le retour à NXT, et puis tout ça, quoi. Voilà. Lui, il n'a jamais été viré. Ah oui, il n'a jamais été viré parce que c'est un fils de légende. OK, les gars, d'accord.
Donc, c'est un tocard.
Ouais, voilà, Randy Orton, il y a du sang bleu qui lui coule dans les veines. Alors, faut arrêter de déconner un peu, 2 minutes. Hein. Voilà, donc du coup, Drew, tout ça pour nous dire qu'il assume. Voilà, il assume totalement toutes les erreurs qui ont été faites, qui lui ont fait traverser ce parcours. Lui, il considère que Randy, il aurait bien mérité, à différentes époques, et peut-être même depuis longtemps, il aurait bien mérité de se faire virer lui aussi. Et peut-être pas qu'une fois. Là-dessus arrive la Vipère, accompagnée de Ric Flair. La Vipère, il confirme. Quand, finalement, en arrivant, c'est assez marrant puisque sur le coup, Andy Orton confirme les propos de McIntyre, mais qui dit que lui, au contraire de l'Écossais, même s'il a jamais été viré, c'est parce que lui, il compte. Voilà, il compte dans la fédé. Quoi. C'est pas rien, c'est Randy Orton, quoi. Alors que McIntyre, c'est pas grand-chose finalement. Quoi. Donc il connaît tout ce blabla, il entend ce genre de truc depuis des années. Il dit au champion que maintenant, il va falloir trouver qu'il trouve quelque chose d'original cette fois, quoi. Et McIntyre nous balance que c'est l'Undertaker qui l'a amené là où il est, mais que lui, il n'a pas rendu la même à un jeune, donc il promet qu'à SummerSlam, l'égoïste qu'il est se prendra une clé mort et qu'il restera champion. C'était un échange assez simple et efficace entre les deux behemoths qui vont s'affronter à SummerSlam. Donc papy, t'es chaud sur cette rivalité Drew McIntyre-Randy Orton?
Ah oui, alors j'étais déjà chaud moi, dès le départ parce que, comme on a plusieurs fois dit, c'est les deux superstars les plus hot en termes de côté Raw, en fait, côté face et côté heel, c'est les deux plus forts, les deux plus mis en avant. Donc très impatient de les voir. Le segment micro a vraiment bien fait son. Autant, tu vois, on en avait parlé du segment micro la semaine dernière, de Randy, je crois, qui avait démarré, qui était un peu lourd, pas très intéressant. autant cette semaine est vraiment, je trouve, impactant parce qu'ils ont bien fait le boulot tous les deux. On en a parlé sur le Discord. Moi, je trouve que Randy Orton a bien, entre guillemets, servi la soupe à notre ami Drew en lui disant bah, tiens, vas-y, t'as raison, montre-moi maintenant une vraie promo, sors-moi un vrai truc, surprends-moi. Et puis derrière, t'as Drew qui a déroulé une promo assez forte en disant bah voilà, toi, t'as jamais rendu ce que le catch t'a donné, moi, j'ai galéré comme pas possible et tout, avec toi, tu. Échapper à toutes les sanctions, tu t'en sortais chaque fois bien.
Ouais, t'es né avec une cuillère en argent dans la bouche, voilà.
Donc, c'était plutôt bien senti. Bon, alors, c'est pas révolutionnaire, hein, on va pas non plus se voir la face, mais c'était plutôt bien senti et plutôt intense avec les deux qui ont plutôt bien réagi l'un avec l'autre. Donc, ouais, satisfait de ce segment.
Ok. Derrière, on va se retourner en coulisses, du backstage, Arrow et à SmackDown, on en bouffe du backstage, hein. Ou alors on va avoir Kevin Owens. Alors bon, Kevin Owens, donc il passe les plats au Riot Squad, voilà, qui les félicite pour leur victoire précédente. On va avoir Ric Flair qui va débarquer et qui va commencer à donner des conseils en fait à l'ami Kevin Owens pour revenir au top de la chaîne alimentaire, comme dirait l'autre. Owens lui dit que dorénavant il a envie de prendre un autre chemin, quoi, et d'être quelqu'un d'admiré pour ce qu'il fait dans les vestiaires, tout ça, quoi. Enfin, voilà, en mode babyface, quoi. on comprend que Ric Flair il va être dans le coin, hein, si j'ai bien compris sur ce segment-là, parce que moi le yaourt de Ric Flair, là, je vous avoue que comme je regarde tout en VO, mais il y a des fois, il y a certaines personnes comme Jim Ross pour ne pas le citer, et Ric Flair dont j'ai parfois du mal à comprendre tout dans sa promo, quoi.
Et c'était compliqué aujourd'hui, hein.
Non, papy, comment t'aurais traduit la promo de Ric Flair pendant ce segment?
Ah bah c'est très simple, il a dit voilà, il a dit à peu près ça.
Et il avait pas de masque.
J'espère que tu as tout compris. Et après, a priori, Kevin Owens comprenait ce qu'il disait. Je n'étais pas, parce que je me suis dit à un moment, mais qu'est-ce qu'il lui raconte, papy, là? Alors, j'ai pas tout bien compris son raisonnement pour expliquer qu'il fallait du coup opposer Owens à Orton. Mais bon, a priori, Kevin Owens l'a compris. Donc, bah, roule comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est lui le spécialiste. Hein.
Ouais, et en fait, Ric Flair, ce qu'il essaye de lui dire, c'est de rejoindre son camp, quoi, qu'il a déjà Randy Orton dans son coin et que. Et que s'il le rejoint, voilà, il va pouvoir lui obtenir un match pour le titre. Et finalement, Owens, il va lui dire que s'il se soucie tant de sa carrière, il a besoin de personne et que lui, il va aller affronter Randy Orton directement la semaine prochaine, quoi. Donc finalement, moi, je ne sais pas ce que tu as compris là-dedans, mais est-ce que ça augurait un match de number one contender entre Owens et Randy Orton?
On pourrait déduire ça par rapport effectivement au fait qu'il dit si tu gagnes ta place pour être number one contender, mais c'est tellement pas clair que.
C'est tellement pas clair!
que...
Ah ouais, non,
c'est pas un peu clair.
Et pourtant, je me concentre hein, quand c'est Ric Flair qui est à l'écran, hein, mais franchement, c'est trop dur. C'est l'anglais. Ouais, c'est un anglais ingérable. Voilà. Alors bon, derrière, on se retrouve quand même sur le ring où on va retrouver Nia Jax qui, finalement, est là. Elle est avec Pat Buck. Voilà, donc elle dit qu'elle c'est le gars avec qui il y a eu l'interaction de la semaine dernière. Elle dit qu'elle est là pour s'excuser, mais qu'elle s'excusera que si Buck accepte de la défier pour un match. Ok, Nia. Buck, lui, il va refuser. Et puis, sous les menaces de Nia, finalement, il va annoncer sa suspension. Pat Buck, un mec influent dans le réseau WWE, tu...
Je sais pas qui c'est, ce gars-là.
Voilà. Elle l'a attaqué après en lui gueulant dessus et en lui disant qu'il n'avait aucune autorité pour ça, quoi.
Voilà, mais on ne sait pas qui c'est et puis on ne sait pas ce que le raisonnement de Nia Jax qui veut affronter un mec qu'elle a déjà attaqué de manière totalement disproportionnée la semaine d'avant. On ne sait pas. C'est un segment qui venait de l'espace pour moi. J'ai pas compris. Mais je n'ai pas envie de comprendre, en fait. Mon cerveau a immédiatement chassé ce segment de ma tête une fois que c'était terminé.
Ouais, c'était Roger to Major Tom, là, hein, parce que là, on était effectivement dans une autre galaxie à ce moment-là. Derrière, on a un match officiel, un vrai match entre les cordes pour le 24-7 Championship, le Roll-Up Championship. On a un triple threat, on a une triple frite, triple menace.
Et, des frites.
Ouais, avec Akira Tozawa et Futuring Ninja, Shelton Benjamin et R-Truth. Alors, le match va durer. Accrochez-vous à nouveau à vos sièges, peuple de catch-up. 2 minutes 15! Alors que moi, sur le coup, je me suis attendu, je me suis dit, ah, oh, on va avoir un vrai match de catch, un triple menace pour le 24-7, ça va être sympa, ça. Mais en fait, le Japonais, il va remporter le match avec, par surprise, quoi, avec un diving senton sur Ertus. Et Benjamin va se retrouver bien dépité, bien seul, pendant que Tozawa va fêter la victoire avec les ninjas. Un mot, papy, sur le Roll-Up Championship?
Bah non, mais alors, je concernant la prise de titre, j'ose imaginer que c'est parce qu'ils ont d'autres plans pour le Hurt Business et que du coup, ils se sont débarrassés du titre.
Bah moi, ça m'a
je ne peux imaginer hein. que ça, mais c'est parce qu'en fait, la prise de titre en elle-même est très débile, en fait. Autant le dire, parce que t'as un triple threat et t'as un des participants qui décide d'aller se battre extérieur contre les ninjas, en fait. Et donc forcément, Tozawa, il récupère la... Parce qu'il est resté longtemps, Arthus KO en plein milieu du ring, et que Tozawa...
Ah oui, 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 oui. Ah oui, il a fait la sieste.
Voilà, il a fait la sieste. Hein. Et donc, pendant tout ce temps-là, t'avais Shelton Benjamin qui faisait tout le tour du ring, qui affrontait des ninjas et tout. Et puis MVP aussi, puis Lashley aussi. C'est que les trois débiles étaient en train d'attaquer des ninjas, tandis qu'il y avait Tozawa qui faisait le tomber sur Arthus. Bon, j'ai trouvé ça particulièrement débile. Je pense, dans mon fort intérieur, je pense que c'était juste pour éloigner Shelton Benjamin du titre 24-7 parce qu'ils ont peut-être d'autres projets pour lui derrière. En tout cas, j'espère. S'ils retournent vers le titre 24-7 la semaine prochaine, bon, c'était juste complètement débile. Sinon, bah, c'était une manière détournée de le faire perdre la ceinture sans le faire paraître faible, je présume. Et puis, bah, mine de rien, depuis qu'il est revenu avec MVP, il a toujours pris de tomber derrière Shelton Benjamin. Mais bon, ouais, c'était quand même bien débile.
Moi, ça m'a emmerdé parce que je me disais que pour une fois qu'on avait un champion 24-7 qui tenait la route et qu'elle allait peut-être avoir un règne un peu significatif, que le pouvait être porteur justement de ça. Il pouvait garder le 24-7 en étant dans ce clan-là. Donc moi, j'ai été quand même assez surpris. Bon, c'est pas Ertrus qui prend le titre, c'est Akira Tozawa, mais je m'attendais pas à ça, quoi. Bon, voilà.
Ah, c'est la ceinture des clowns.
Enfin, un truc envoyé en 2-2, hein, c'est le cas de le dire. Hein. 2 minutes 20, voilà, en 2-2, et ça s'est arrêté là-dessus. Derrière, alors, là, changement d'ambiance, hein, on va dire ça comme ça, puisqu'on quitte complètement le ring, on quitte l'Arkham, on quitte même les backstage, puisqu'on se retrouve dans un espèce de hangar, avec un ring sans corde, et là, un monsieur que vous connaissez bien, peuple de catch-up, tout sourire, avec ses sneakers aux pieds, comme d'hab. Et là, on voit une incrustation sur le bord de l'écran, et on nous indique qu'on est à Raw Underground. Et que ça
va voilà.
Après Raw, on voit au fond, derrière nous, une espèce d'ambiance un peu Fight Club, avec des lutteurs qui sont en train de se battre contre d'autres lutteurs, voilà, entourés d'autres lutteurs, tout autour de ce ring sans corde, donc, je le précise bien. Il n'y a pas de public particulier. Hein. Il n'y a que des lutteurs. Il y a Shane McMahon et il y a des danseuses. Voilà. Il y a des danseuses. Et il nous indique que ça va commencer après Raw. Alors moi, sur l'instant, je me suis dit, ah bah tiens, ils vont faire une espèce d'émission spéciale. Il va y avoir un truc après le Raw. Bah, je verrai ça plus tard. Bam, direct, on retourne en backstage. On y retrouve Dominique Mysterio qui nous explique qu'il a vu son papa qui est aveugle. Et ça c'est pas bien, quoi. Et que c'était dingue de continuer le combat de Rey Mysterio. Voilà, que ça le rend fou de voir Seth Rollins s'en sortir encore une nouvelle fois tranquille dans cette histoire. Et donc, il décide d'aller défier le Messi à un match. Et ce match, il aura lieu à SummerSlam. Alors, papy, qu'est-ce que ça t'a fait de voir un petit jeune Dominique booker son match pour SummerSlam?
Alors, juste avant d'aller sur Dominique, il me semble que... Alors, j'ai peut-être mal compris, mais il me semblait que Shane McMahon disait que le Raw Underground... démarrer à 10h du soir ou un truc du genre. Donc je me suis
d'accord,
dit,
il a donné une heure
précise. Ouais, donc du coup, moi je comprenais que c'était pendant Raw, mais à une horaire précise en fait. Donc,
J'avais compris après Raw sur l'instant.
C'est peut-être ce qu'il a dit. Enfin, en tout cas, j'ai compris comme ça. Donc du coup, j'étais pas. Voilà, je pensais que ça allait arriver pendant Raw. Ouais. Voilà, donc on reviendra tout à l'heure sur ce sujet-là. Dominique, du coup, bah oui, il a des couronnes, le petit Dominique.
Ah bon, ça, on ne saurait mentir.
Voilà, non, mais au bout d'un moment, il faut qu'il prenne un peu en main le sujet parce que c'est quand même lui le personnage entre guillemets principal de la rivalité depuis le début du truc parce qu'il tourne toujours, il est toujours là, il défend son papa vient le défendre. Voilà, il faut que maintenant il faut qu'il passe à vitesse supérieure, Dominique. Donc, ouais, bah, c'est très bien qu'il prenne en main ce truc-là.
Ok, et ben voilà, auto-booking du fils Mysterio et c'est lancé contre Seth Rollins. Derrière, on va avoir un match, quand même, un peu de catch, puisqu'on va avoir Sasha Banks, accompagné de Bayley, qui va affronter Shayna Baszler suite à l'altercation du début. Alors, accrochez vos ceintures, peuple de catch-up. Time du match, nous allons avoir droit à un match de 4 minutes 48 et qui va finir en no contest parce qu'il va y avoir l'intervention d'Asuka qui va attaquer Bayley. Donc elle attaque Bayley. Du coup, après la pause, on va avoir Asuka qui va être seule sur le ring. Elle va nous rassurer d'ailleurs en nous parlant de Kairi Sane, qu'elle va bien mais qu'elle est plus là.
Voilà, terminé.
Et elle nous explique qu'elle veut son match revanche à SummerSlam face à Sasha Banks. À ce moment-là, c'est Shayna Baszler qui fait son entrée. Elle va du côté de la japonaise, elle va lui expliquer qu'elle sera de son côté au prochain pay-per-view pour l'aider et pour mieux pouvoir reprendre le titre après, quoi. Ça semble pas être trop du goût de Sasha Banks qui va revenir avec Bayley. Elle va dire à Asuka que si elle veut son match à SummerSlam, elle devra battre Bayley la semaine prochaine. Alors Bayley là-dessus, elle fait quand même une drôle de tête, quoi. C'est pas, voilà, elle semble pas super ravie de à nouveau l'auto-booking qui cette fois est réalisé par Sasha Banks. Alors qu'est-ce que t'as pensé de tout ce segment féminin là ? Voilà, on avait à peu près toute le main event féminin qui était réuni là. Shayna, Bayley, Asuka, Sasha. Donc là, papy, dans ce melting pot de la division féminine de Raw, qu'est-ce que t'en as tiré ?
C'est un petit peu le bordel quand même entre ceux qui arrivaient, qui repartaient, qui revenaient, qui ci, qui ça. C'était effectivement un petit peu. Bon, après, ça repositionne Baszler toujours en tant que heel, finalement. Tu vois, on aurait pu se poser la question, vu qu'elle venait d'affronter quand même Nia Jax et Sasha en très peu de temps. Non, elle est toujours positionnée heel. Et puis voilà, Sasha et Bayley, elles continuent à faire des petites traces l'une à l'autre dans le sens inverse par rapport à ce qui se faisait au début. Ça boucle plutôt bien le haut de la carte féminin. On sait que ça sera Asuka Sasha et que le vainqueur va se prendre Shayna Baszler sur la tronche. C'est des confrontations que tu as envie de voir quelque part, donc pourquoi pas.
Ils vont nous faire un pour SummerSlam un Fatal 4-Way avec un winner take all.
Ah, tu crois ça?
Je sais pas, je là comme ça me monte à l'esprit là, tu vois, à l'instant.
Non, moi j'ai vraiment l'impression que Baszler, comme ils ont besoin de la remettre dans l'écran, mais de l'autre côté ils peuvent pas la foutre tout de suite dans les pattes d'une championne, du coup ils trouvent la petite pirouette de dire qu'elle affrontera le vainqueur de SummerSlam en fait. Comme ça, elle peut toujours traîner dans le coin, à la limite casser 2-3 gueules, et puis sans qu'on se pose la question pourquoi elle est pas là dans le match de la ceinture en fait. Je l'ai plus vu comme ça.
Ok. On va retourner en backstage vite fait. On y verra un peu Angel Garza en train de dragouiller une petite blonde, apparemment issue de la télé-réalité américaine. Il va y avoir Zelina Vega qui va pas trop apprécier, d'ailleurs, qui va lui demander de venir avec lui parce qu'elle doit avoir une petite discussion. Et on retourne finalement dans le sous-sol du Performance Center, puisque ce fameux hangar, c'est effectivement les sous-sols du Performance Center, où on va nous remontrer un peu ce qui se passe au fameux Raw Underground. On va avoir un espèce de match, on va appeler ça un match, je sais pas, voilà, où on va avoir Shane McMahon qui va nous présenter un nouveau mec quoi, qui s'appelle Daba Kato, si je ne me trompe pas. Et il va demander aux lutteurs qui sont là ce qui c'est qui est prêt, quoi, qui c'est qui veut monter. Quoi. Donc il y en a un qui monte sur le ring, qui se fait grave défoncer quoi, par le géant, qui est un géant de chez géant, hein, vraiment grand, très grand. Il y a un autre qui s'avance sur le ring. Mais après plusieurs attaques, quoi, de toute façon, le Daba Kato, il le défonce et c'est McMahon lui-même qui arrête le match et qui le déclare vainqueur. Voilà, donc ça dure, c'est un segment qui est très rapide, hein, qui dure 3-4 minutes, pas plus, quoi. Et le temps de mettre dans l'ambiance de cette espèce de Raw Underground. Donc voilà, donc on constate que c'est une espèce de fight club où on pratique la lutte MMA. On veut finalement nous vendre ça un petit peu comme un espèce de truc un peu réel. Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Qu'est-ce que t'as pensé du Daba Kato aussi, là, l'espèce de gros colosse là, qu'ils nous ont balancé là?
Ouais, on peut pas trop le juger le mec, vu que de toute façon il a globalement rien fait, et c'est pas des vrais matchs quoi.
Il a fracasse de mec.
Alors ce mec là, je crois que c'est un mec d'issu du Performance Center, celui-là. J'ai déjà vu sa trombine quelque part là, ça fait un bout de temps qu'il doit tourner dans les coulisses de NXT ou autre. Donc c'est une manière de l'introduire dans le main roster, je pense. Comme ça, il y a un mec dangereux. Après, on ne sait pas trop ce qui ce qu'il veut faire de son Raw Underground, Shane McMahon. Est-ce que c'est une... Est-ce que c'est les gens viennent et partent? Est-ce que les gens sont membres de sa team? J'en sais pas trop, tu vois. Voilà. On sait pas trop.
Du coup, on revient sur Raw, classique. Et les State Profits qui vont nous faire une petite promo et qui vont affronter en single match leur futur, leur number one contender pour le Tag Team Championship de Raw. Ils vont donc, Angel Garza va donc affronter Angelo Dawkins et Andrade va affronter Montez Ford. Et là, on peut dire, sans coup férir, grosse domination de la part des Mexicains, puisque Angel Garza va battre Angelo Dawkins en 4 minutes 52 et Andrade va battre Montez Ford en 5 minutes. Montez Ford a pris très, 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 très cher sur la fin de son match.
Il le bat, Montez Ford, ou le match est arrêté avant la fin?
Ah, je sais pas. Alors, est-ce qu'il a été arrêté? Parce que du coup, il s'évanouit, en fait. Il s'évanouit même deux fois. Et non, c'est l'arbitre qui arrête le match. Ouais, c'est pas un pin, c'est pas une soumission, c'est l'arbitre qui arrête le match. Et clairement, on prend très, 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 très cher. Donc voilà, donc écoute ça, tout ça, ces deux matchs, ça a duré 10 minutes cumulées. Hein. Donc papy là-dessus, quoi. Voilà, domination des Mexicains, on peut dire.
Ouais, donc c'est assez prévisible. La suite le sera un peu moins, je pense, enfin, en tout cas pour moi. Mais c'est logique de mettre un peu les Mexicains en avant, vu que c'est les challengers. Et surtout Garza qui gagne tous ses matchs, de toute façon, c'est le tueur. Alors, par contre, il n'a pas fait son finisher, il a fait un drôle de move aussi sur la fin.
Oui, t'as vu, il a changé. Il nous a peut-être entendu de la semaine dernière. On avait dit que son wing climper, ça faisait pas rêver. Et effectivement, cette semaine, il a un peu changé. Alors, c'était quoi le nom de la prise? Je ne l'ai pas, je t'avouerai.
T'avouerai que je ne me souviens plus. Je sais que sur le coup, ça m'a fait bizarre. J'étais peut-être surpris que ce ne soit pas l'habituel, mais c'est une espèce de coup de pierre tourné où tu bûches. Ouais, bah, je sais plus trop. Bref, bon, à confirmer quand il aura fixé son truc, mais c'est possible effectivement qu'il ait changé pour un truc plus sympatoche visuellement, je pense.
Ouais. À suivre.
À suivre.
Backstage. Ouais. On attend le backstage. On y aura été backstage. Hein. Backstage, c'est un mot que j'aurais dit pendant cette review. On va avoir Murphy qui va être avec Seth Rollins. Le Messi est en train d'expliquer à Murphy qu'il a fait le bon choix la semaine dernière en éborgnant. Aleister Black.
Aleister Black, ouais.
Voilà. Et qu'il est fier de lui. Voilà. Comme quoi, hein, il devrait travailler au ministère de l'Intérieur, Seth Rollins, ça lui irait bien. Alors, Murphy, lui, il s'enquiert un peu de savoir si qu'est-ce que pense un peu Seth Rollins sur le défi lancé par le fils Rey Mysterio, par Dominique. Et lui, finalement, il est assez hautain, l'ami Seth Rollins, et il va nous dire que c'est ridicule de voir un gamin sans aucune expérience venir l'affronter, quoi. Et il se barre en se marrant sardoniquement. Voilà. On retourne à Raw Underground. Et là, on va retrouver des membres du roster, puisqu'on va y retrouver Eric des Viking Raiders, qui est donc avec Ivar à côté, et qui est donc qui est là, et qui va défoncer lui aussi deux, trois mecs, voilà, au passage, toujours avec ambiance un peu underground. La voilà, musique toujours. Est danseuse, c'est sale, le ring fait beaucoup de bruit. Ouais. Voilà. Et Eric est dominateur, hein, ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps, finalement, de la part des Raiders.
Eric, il est sérieux.
Il est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus investi, il semblerait, à Raw Underground que dans le Raw classique. Donc écoute, voilà. C'était le deuxième petit passage sur Raw Underground.
J'ai l'impression que c'est vraiment pour le. Enfin, après, c'est peut-être. On verra la suite, ce que ça donnera sur les prochaines semaines. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi pour vraiment pour la remettre en mode sérieux, quoi, les Viking Raiders. Là, c'est fini la rigolade, les clowneries. D'ailleurs, ils avaient un événement plus simple, je l'ai trouvé.
Ouais, c'est vrai.
Plus sombre. Hein. Donc, c'est peut-être la version dark des Viking Raiders qui est en train d'arriver, là.
Ah, pourquoi pas un petit repackaging de la part des Viking Raiders, ça serait plutôt bienvenu, je pense, en fait.
Oui.
Voilà, on est de retour à Raw où t'as Angel Garza qui est encore en train de draguer Charlie Caruso, mais il a toujours pas compris lui. Hein. Voilà, il y a Dina Vega et Andrade qui vont les rejoindre, qui vont leur demander ce qui a pu se passer, quoi, si quelque chose de dangereux est arrivé à Montez Ford, du coup, quoi. Et on a Angelo Dawkins qui va sortir de l'infirmerie, qui va nous annoncer que, Montez Ford, il aurait été victime d'un empoisonnement qui aurait été mis dans son bouquet. Alors derrière, bam, sort de la porte de l'infirmerie, sort Bianca Belair, qui bah, direct veut s'en mettre joyeusement avec Zelina Vega. Elle lui demande de s'expliquer avec elle, quoi. Puis bon, finalement, elle préfère plutôt lui faire une bonne grosse tête au carré.
Voilà.
Voilà, Zelina, elle fait comme si elle y était pour rien dans cette affaire, quoi, mais elle se fait attaquer par l'épouse de Montesfort qui a donc décidé que c'était elle, l'empoisonneuse. Ouh, pas beau.
Et oui, un mystère de plus.
Et oui,
un mystère de plus dans ce rôle. Que se voilà, passe-t-il et... C'est bizarre.
Ouais, et les mystères sont pas finis puisque direct, on va enchaîner avec nos commentateurs qui vont nous montrer une vidéo qui a été prise plus tard, plus tôt, dans la soirée. Et on voit, alors ils disent 5 lutteuses, 5 lutteurs, apparemment il y a une femme ou deux femmes dans le groupe, ils sont 5, 6, 5 apparemment, et ils ont mis le feu à des équipements du Performance Center, dont un espèce de gros truc, alors je sais pas, tu es un technicien papy toi, tu sais c'est quoi le truc, c'est qu'ils ont mis le feu là.
C'est un groupe électrogène
ou un gros groupe, un très gros groupe électrogène alors.
Du gros mastoc.
Ouais, voilà, du gros matos, voilà, ils ont cramé du gros matos quoi. Donc, façon manifestation à Portland. Donc, on ne sait pas trop. Ils ne nous en expliquent pas beaucoup plus, finalement. Hein. On voit juste ces images-là. Et puis, voilà, on reste dans un océan de questionnements. Là-dessus, on retrouve leur business qui est avec Charlie Caruso, qui est au four et au moulin ce soir, les amis. Et voilà. Et pour lui, pour MVP, lui, sa soirée, elle a été sabotée. Voilà. Sa soirée et celle de Shelton Benjamin aussi, ça a été sabotée. C'est un scandale. Ça n'en restera pas là. Maintenant, puisque c'est comme ça, on va aller passer nos nerfs dans le sous-sol underground.
Voilà.
D'accord. Ok. Donc du coup, on se dit bon, il va y avoir le Hurt Business qui va débarquer à Raw Underground. Et en fait, maintenant, on revient sur le ring, sur le Raw classique. Et là, on se retrouve avec Seth Rollins qui fait son entrée avec Murphy. Et voilà. Il veut faire passer un message à Tom Phillips pour commencer. Il lui dit qu'il a vu avoir. Enfin, il l'a vu qu'il avait félicité Dominique Mysterio la semaine dernière. Et que voilà, ça l'a mis en rage et on lui demande ce que ça veut bien pouvoir dire. Alors bon, je n'ai pas trop compris cette interaction. Moi, j'avoue que là-dessus, j'étais un peu perdu là. Qu'est-ce que ça venait foutre dans l'histoire
hein, ouais, non, en gros, il disait qu'il faisait pas son job, Todd Phillips, qu'il aurait dû juste commenter les actions sans prendre parti. Il a pris parti contre Seth Rollins. Donc il disait t'as pas fait ton job et puis il commence à menacer quoi.
D'accord, ouais, ok. Ouais, bah écoute, ouais, moi c'était juste que j'étais surpris en fait que ça commence comme ça. Et puis finalement, il veut plus ou moins prendre sa place. En fait, il demande à Murphy de le virer quoi.
Pour de le dégager, ouais.
Sa place. Et du coup, Sapo Adjo, il s'interpose. Il lui demande vraiment là, t'es vraiment sûr là de ce que tu vas faire là, parce que sinon moi je vais te péter la gueule. Si tu touches à Phillips, il faut pas te toucher à Tom. Et voilà, et Joe il est plutôt bien chaud, hein, je l'ai trouvé presque prêt. À un moment j'ai hésité, je me suis dit il va y aller, il va pas y aller. Voilà, d'ailleurs Rollins il lui dit ouais, t'oseras pas le faire, t'oseras pas y aller. Finalement, en se retirant, paf, ça va provoquer Rollins, il va provoquer Joe, ça va le faire monter sur le ring. Là, vraiment, moi, j'étais de plus en plus en train de me dire, ah, ça y est, on va vers un retour du Samoa Joe dans le ring. Du coup, Samoa Joe et Seth Rollins, ils sont sur le ring, ils ont tous les deux une chaise dans les mains, mais finalement, ils vont pas avoir le temps de s'attaquer parce qu'il y a Dominique qui débarque, qui attaque le Messi avec un kendo stick, il va lui mettre plusieurs coups de kendo stick. Voilà, et il va placer l'ennemi de papa entre les cordes et il va lui coller un 619. Voilà, Rollins fuit, hein, il fuit le Messi avec Murphy. Et après, finalement, il va prendre un micro quand même pour dire que, bah, puisque c'est comme ça, bah, s'il tient vraiment à l'affronter au prochain pay-per-view, deal. SummerSlam, Dominique versus Seth Rollins.
C'est booké.
Voilà, papy.
Bah ouais, bon. Je vais pas me répéter là-dessus. Je pense que, enfin moi l'histoire de Rollins et les Mysterio, ça me saoulait parce que depuis des semaines, que j'ai trouvé que c'était tout le temps les mêmes segments avec et vas-y que je fais une promo, et vas-y qu'il y a une intervention, et vas-y que je te crève l'œil, etc. Là, on a une petite variation avec Dominique qui, bah finalement, c'était la seule chose qu'on pouvait attendre de cette rivalité, que Dominique finisse dans le ring. Alors on verra ce que ça donne. Ça sera peut-être une catastrophe ou alors ça sera effectivement la révélation de son talent. Mais voilà, moi j'en ai ras-le-bol quand on tourne autour du pot. Dominique, il est trop présent pour ne pas catcher. Donc c'est très bien qu'il aille dans son ring. Je croise ses doigts pour que ça se passe bien pour lui. Mais oui, il fallait passer à cette étape-là parce que là, j'en avais ras-le-bol. Moi, toutes les semaines, en dépit des qualités dans le ring de Lester Black, de Rey Mysterio, de Carrillo, de Murphy, etc., moi, c'était trop, trop répétitif. Donc voilà, on passe à l'étape supérieure. Dominique, il intervient. Voilà, passons à la suite et je suis impatient de voir le match.
Ouais. Voilà, bah écoute, on va voir ce que ça va donner. Moi, je fais partie de ceux qui sont un petit peu fatigués par le personnage de Seth Rollins. Ses promos me paraissent de plus en plus longues. Là, en fait, ce qui a un peu sauvé la promo, ça a été le fait qu'il y ait Samoa Joe qui soit mis dans l'affaire. Et parce que du coup, j'étais plus intéressé par ce qui allait se passer avec Samoa Joe qu'autre chose, si tu veux. Et j'ai vraiment cru, moi, parce que moi, j'espère, hein, moi, je fais partie de ceux qui espèrent un retour de Samoa Joe dans le ring un jour, même si je le trouve très bon et très fin aux commentaires. Je le trouve excellent depuis le début. Vraiment, je suis content qu'on l'ait à la table des commentateurs. Mais je fais partie de ceux qui aimeraient le revoir sur le ring.
Après avoir sa condition physique, après.
Et là, j'y ai cru. Je ne cacherai pas que j'y ai cru, en fait. Je me suis dit, il va y avoir un truc de transition, parce que SummerSlam, c'est le 23 août. Il y a du temps pour faire du booking pendant les weekly, d'essayer de nous proposer un produit sympa. Hein. Mmh. Et ça aurait été bien, ouais, ça aurait été bien que Samoa Joe s'investisse là. Mais là, apparemment, non, c'était pas prévu.
C'est pas pour tout de suite. Mais effectivement, comme tu dis, il est bon au micro et je trouve bon aussi dans ses interactions avec les autres catcheurs, avec l'environnement, en fait. Là, tu vois, là, il a bien joué son rôle à la fin du segment. Je sais pas si tu te souviens, tu vois qu'il commence à dire à Todd Phillips, bon, voilà, c'est fini, il se tape dans la main. Enfin, c'est tous les petits détails, tu vois, comme ça, il joue vraiment. Enfin, bon, pour le coup, on en parlait tout à l'heure des filles qui étaient mauvaises actrices dans les larmes. Lui, dans son rôle, il est très bon acteur, en fait. Tu vois, moi, de toute façon, quel que soit le segment qu'il fait, il est toujours très, très juste. Je trouve vraiment, vraiment très fin dans son, aussi bien dans ses commentaires que dans son jeu. Et on en parlait il y a quelques semaines, là, d'un manque d'un general manager à Raw. Bah, un Samoa Joe, pour moi, il serait parfait, quoi. Il a tellement la justesse dans ses promos, dans son jeu avec les autres, dans ses interactions, et aussi la capacité un jour, peut-être, de revenir dans le ring. Je pense que ça serait certainement un des choix les plus pertinents pour ce type de rôle.
Ok. Et ben voilà. Et ben écoute, derrière, pas de main event. En tout cas, pas de main event comme on l'entend. Pas de main event classique. On se retrouve à Raw en sous-sol, à Raw underground, à Raw sous terre. Et là, on tombe sur qui ? On tombe sur le Dolphin. Donc le Dolph Ziggler, il est en train de passer un mec à tabac, quoi. Et voilà, au passage, il collera un zigzag, tranquillou. Et on a Shane McMahon qui va accueillir le Hurt Business, qui vient de donc faire son arrivée, comme il l'avait promis précédemment. Et il va donner direct le micro à MVP. Le manager de Hurt Business, il va nous dire que l'Underground, en fait, ça appartient au Hurt Business et que Bobby Lashley, il va y faire son premier match. Effectivement, le Bobby Lashley, il va enchaîner direct face à un lambda jobber choisi au hasard quelque part dans la rue à Orlando et va le tabasser gravement. Et voilà. Et MVP et Shelton Benjamin, ils iront aussi faire joujou sur le ring. Avec le même résultat, hein, on chope un mec lambda, on le tabasse bien fort, on se bagarre et on lui fait très très mal. Et à la fin, bah, le trio va descendre du ring et puis il va attaquer bah, le reste des lutteurs qui est autour du ring. Et ça va se terminer là-dessus. Mmh. Alors, papy, main event, pas main event, sans main event de ce Monday Night Raw, ça t'a fait quoi comme...
C'est ça, et en fait, c'est particulier parce que finalement, tu vois, quand là, tu as donné les timings de chaque match durant le show, et finalement, on n'a pas eu de pur catch tant que ça dans le show. Les matchs étaient plutôt courts, il n'y en a pas eu tant que ça. Et en fait, j'ai l'impression que la portion catch a été compensée par tous les passages du Raw Underground, en fait, où c'était de la bagarre, comme du Street Fight, en fait, mais ou du Fight Club. Il n'y a pas vraiment de timing, s'il y a un arbitre, mais c'est pas vraiment un arbitre, pour le coup, c'est vraiment un arbitre, ce qui me semble avoir déjà vu avec le maillot rayé celui-là. Mais voilà, donc
c'était un arbitre connu, ouais. C'était un arbitre habituel. Ouais, c'est ça. C'est tu veux faire de l'underground, mais t'as un arbitre. Enfin bon.
Voilà, c'est comme si en fait c'était sa propre division. Alors, en plus, le segment final, tu vois, pendant tous les moments, je me suis dit, tiens, c'est marrant, Shane McMahon, il recrutait Dolph Ziggler, il a peut-être recruté les Viking Raiders, le nouveau gars de NXT. Mais non, finalement, t'as l'impression qu'il est juste là pour donner un cadre, en fait, parce que MVP et Lashley et Benjamin arrivent, leur business arrive, et il n'y a personne pour les arrêter, en fait. Il y a juste d'autres gars, des no-names qui viennent d'affronter. Moi, tu sais, j'aurais pensé que justement les gars de Shane allaient défendre le truc underground, mais non, enfin, a priori. Et puis Shane n'avait pas l'air choqué, donc il y a peut-être pas d'équipe à lui, c'est peut-être juste un cadre, un ring qui donne pour les gens pour s'exprimer, et puis bah, vient qui veut et part qui veut. Enfin, je sais pas. C'est pour ça que je reste perplexe pour par rapport à la suite. Ça peut être très bien, comme ça peut vite tourner en rond si jamais il n'y a pas d'autres idées derrière, en fait. Mais bon, voilà, donc j'attends de voir la suite.
Ouais, cela dit, ainsi se termine ce Monday Night Raw du 3 août 2020, ainsi que notre review. Donc nous voici rentrés dans la phase ultime, la phase du top flop note, Talpi. Alors là, je veux t'entendre.
Alors, mon flop. Alors, j'ai faim. Bon, malheureusement, ça sera pour des femmes. Malheureusement. Alors, j'hésite entre Nia Jax qui vient de la planète Mars, mais je vais l'épargner pour cette semaine et pour le refiler à nos pleureuses de service, parce que ça m'a vraiment insupporté et c'est vraiment un carton rouge pour tous les segments de pleurnichard de aussi bien fille que garçon dans le catch en général. Donc carton rouge et flop à nos amis Liv Morgan et merde, j'ai oublié son nom, et l'autre, voilà, et Ruby Riott, voilà. Donc voilà, bon flop pour ces deux filles là, surtout pour la partie pleurnicherie. Mon top, voilà, il y a beaucoup de, je m'étais plaint la semaine dernière que ça manquait de choses nouvelles et de nouveautés, de suspense. Donc là, on en avait beaucoup au contraire dans ce show-là. Donc je reviendrai dans ma note. Et du coup, mon top, je vais le donner à un truc finalement plus classique. Je vais le donner au segment micro entre Drew McIntyre et Randy Orton, où que j'ai trouvé fort bien mené du début jusqu'à la fin, en fait. Donc mon top à ce segment micro-là. Et ma note, alors je pensais mettre vraiment une bonne note. Finalement, en faisant la review avec toi, je me rends compte que ça manquait un peu de catch. Donc, je vais me contenter d'un 2,75 parce que j'ai beaucoup aimé qu'il tente des choses, en fait. Je reprochais beaucoup à la WWE ces dernières semaines d'avoir baissé les bras, de plus se battre et pour donner du contenu. Et là, je trouve qu'ils sont bien battus ces dernières semaines, aujourd'hui plutôt, hier, à mettre de la nouveauté entre du mystère, entre les mecs et les espèces terroristes qui cassent un peu tout, le Raw Underground, l'empoisonnement de Montesford. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. J'espère qu'ils vont les mener jusqu'au bout, parce que moi, j'aime bien que quand tu évoque un truc, tu mènes la barque jusqu'au bout, mais en tout cas, ça m'a fait du bien d'avoir un peu de nouveauté dans ce monde électro.
Ok, tu penses quoi de l'histoire de la faction là, avec les cinq là, qui sont venus mettre le feu à un groupe électrogène, qui sont appelés les Retribution, apparemment, ils ont déjà un nom officiel balancé sur le site de la WWE.
Alors j'ai trouvé un peu foireux leur lancement, parce qu'ils ont annoncé dans la journée il y a d'avoir le début d'une faction, en fait. Et après, tu te rends compte que c'est des mecs qui font des trucs un peu mystérieux. Enfin, c'est bizarre la façon de dire. On annonce que des mecs vont débuter, mais en même temps, on ne sait pas qui c'est et ils font des trucs pour détruire le show. C'était un peu couillon, ça, j'ai trouvé, comme mise en avant. Alors, si encore ça avait été des mecs qui faisaient un communiqué avant, disant « Attention, on arrive, méfiez-vous », j'aurais compris. Mais là, c'est la WWE qui annonce qu'ils vont faire débuter des gens qui vont flinguer leur show. Tu vois, c'était pas très clair dans ma tête. Encore une fois, j'espère qu'il y a quelque chose derrière, que c'est pas juste une idée jetée là à l'arrache et sans contenu.
Ok. Bon, bah écoute, moi, me concernant, moi, ça m'a pas fait rêver, hein, cet épisode de Monday Night Raw.
Oh non.
Pas du tout. Moi, je vais donner mon top à l'opener avec le match entre Apollo Crews et MVP. Et je suis même super étonné de donner un top avec un MVP dedans. Pas parce que j'aime pas ce qu'il fait au niveau du clan, etc. Mais c'est dans le in-ring, vraiment. Mais bon, là, pour le coup, c'est le seul vrai match de catch qui a duré un peu plus de 12 minutes. Et c'est le seul vrai match de catch qu'on aura de la soirée, de toute façon, puisque après, tu peux, voilà, après, de toute façon, il n'y a pas eu un match au-dessus de 5 minutes et en général moins. Donc ça situe quand même un peu le niveau, sachant que le Raw Underground, les matchs aussi qu'on voyait assister, auxquels on assistait, étaient quand même aussi de toute façon très courts. Ça fait que là, c'était quand même assez, c'était
très assez, très scénarisé,
très très scénarisé et très restreint du coup. Donc voilà, donc je donne mon top à l'opener entre Apollo et MVP. Je vais donner mon flop. Alors là. Entre Kevin Owens qui se retrouve avec Ruby Riott à son invité à son show, entre tous les trucs qu'on a déjà dit, tout ce qu'on a déjà expliqué, la gestion du 24/7, voilà, moi je sais pas, c'était un, même les 1 contre 1 avec les deux Mexicains, etc., m'ont pas affolé plus que ça, voilà, bah, en même temps parce qu'ils ont pas eu de temps pour le faire. Le truc du Raw Underground, je sais pas comment l'anticiper en fait, ce truc là. À quoi ça va servir? Est-ce que ça va être un truc récurrent? Est-ce que c'est un truc qui va servir justement à la nouvelle faction qui vient d'arriver? J'ai du mal à savoir un peu ce que ça donne. Et du coup, tu vois, non mais franchement, j'ai du mal parce que mon flop, je le donnerai à plein de trucs. Il n'y a rien qui m'a.
Attends, alors, si je peux juste couper une seconde, parce que moi, il y a un truc que j'ai oublié de préciser que je n'ai pas trouvé vraiment bienvenu dans le Raw, c'est les gonzesses qui dansent dans le Raw Underground. Je
n'ai
pas trop envie de les mettre. Hein, là, c'était ah bah là,
c'est Shane McMahon qui s'est fait plaisir, quoi.
Ouais, voilà. Enfin, ça, pour le coup, ça n'apporte strictement rien, hormis de qui n'est pas une très bonne image du truc, quoi. Bon, bref. Voilà, c'était ma petite parenthèse.
Ouais, ouais, ouais. Donc, tu vois, j'ai même pas réussi à déterminer un flop pour l'instant. Alors, c'est parce que, en fait, j'en ai trop et je sais pas. Alors, je vais faire plouf plouf, hein, et puis. Le plouf plouf, je pense qu'il va tomber sur. Ah, putain, si je tape sur les filles, là, j'ai déjà.
Je peux pas le mettre à Otis, cette pour. C'est déjà ça.
Je peux pas le quoi?
Je peux pas le mettre à Otis, au moins, c'est déjà ça.
Ah ouais, déjà, ouais, j'ai pas Otis, là. Donc, de toute façon, faut que je décharge ma colère sur autre chose, quoi. Et, je crois que je vais le donner à Seth Rollins. Je vais le donner à Seth Rollins parce que sa promo, j'en ai marre. J'ai
l'impression
que
c'est
tout le temps la même chose. Là, ça fait depuis WrestleMania, donc c'est pas comme si c'était il y a 2 semaines. Hein. Donc, depuis WrestleMania, depuis Corona Mania, Seth Rollins, mais il est enfermé dans un espèce de truc où il fait systématiquement toujours la même chose tous les lundis, quoi. Alors, j'ose espérer que le match qui va mener à SummerSlam face au jeune fougueux Mysterio, ça sera pas un truc avec une histoire d'œil et tout ça. Hein. J'espère qu'on va être
épargné
de ce genre de choses. J'espère bien que Dominique, il va traficoter dans le booking, puisqu'il s'est autorisé lundi à le faire, pour peut-être faire un match avec une stipulation, pour peut-être un peu déstabiliser le Messi. Mais ça serait bien que le Messi catch un peu et se taise un petit peu aussi. Et, ou en tout cas, s'il ne se tait pas, qu'il nous raconte un peu autre chose. Parce que là, vraiment, ça tourne en rond, chez tourne en rond, chez tourne en rond. Donc voilà, mon flop ira à Seth Rollins pour cette semaine. Et ma note, ce sera un 2,25. Voilà, ce sera
Holo.
Ma la semaine pour le Monday Night Raw. Ça fait un petit moment que je n'ai pas mis la moyenne à un Monday Night Raw ou juste la moyenne. C'est difficile, hein, c'est difficile. Hein. J'ai du mal à anticiper cette histoire de Raw Underground. Et je suis déçu un peu parce que, c'est ce que je dis, hein, c'est pour moi, SummerSlam, c'est le 23 août, il y avait encore du temps. Non, t'en penses quoi, papy?
Bon, après, ça, je t'avouerais que sincèrement que j'ai pas d'avis arrêté là-dessus sur le fait que tu annonces les matchs à l'avance et qu'après tu les construises petit à petit, les fasses monter en puissance, ou alors que tu les détermines au dernier moment. Je pense surtout que c'est la manière de raconter derrière qui va jouer en fait. J'ai pas une philosophie arrêtée là-dessus. Il y a des matchs qui ont été un an à l'avance et qui finalement ont été bien montés. Et d'autres qui, enfin bref, j'ai vraiment pas de, j'attends de voir la suite quoi. Je vais pas m'arrêter là-dessus.
D'accord. Ok. Eh ben écoute, comme disait notre ami Chéro, la suite au prochain numéro. Peuple de 86 SF, cette review du Monday Night Raw du 3 août 2020. Alors, Vous savez où nous on retrouve ? Allez, vous le savez, je sais que vous le savez, mais dites-le plus fort, je l'entends pas. Vous nous retrouvez sur tous les bons réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Bon, alors là, j'ai dit tous les bons réseaux sociaux, ça n'engage que moi et en fait personne, parce que je ne sais pas si c'est bon. Hein. Mais en tout cas, on y est, c'est ça qui compte. Voilà, vous nous retrouvez sur Discord. Allez sur Discord, allez vous inscrire sur Discord. On a eu quelques arrivées cette semaine, on les salue. Tiens, un truc que je fais, qu'on fait jamais d'ailleurs. Histoire de pour terminer, tiens, sur Discord, qui c'est qu'on est arrivé ? Qui c'est qui ? Alors, on a Advar qui est arrivé cette semaine. On a Gna Gna Gna. Alors, Gna 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 a l'air d'être un, mon cher papy, a l'air d'être un historien du catch.
Oula, oui, ils ont
tout. Je sais pas si tu as eu l'occasion de lire quelques commentaires de ce vieux monsieur, je pense. On se retrouve encore entre personnes âgées. Hein.
Oui. Il nous rappelle notre jeunesse avec des matchs des années 1920 et 1930. Effectivement, moi, ça, j'ai deux, trois souvenirs de cette époque, hein, mais c'est bien qu'il nous le rappelle quand même.
Ouais. On a eu, dans les nouveaux arrivés, là, sur la fin juillet, début août, on a eu MDX, on a eu le Nain Gaming, on a eu Wrestling Pro Essonne. Ça, c'est un nom qui me parle quelque part, la Wrestling Pro Essonne.
Qui est-ce donc ?
Voilà, quoi. Donc, on a des nouvelles arrivées, les amis. On a même un Charlie Poissonnier aussi qui est venu. J'aimerais bien entendre sa voix, Charlie Poissonnier, quoi, tu vois. Et donc voilà, on a eu des nouveaux arrivants, donc n'hésitez pas, vous pouvez sur le Discord, vous pouvez en profiter aussi pour y poser des questions, etc. Et nous, on essaye d'y rebondir dès qu'on peut à l'antenne. Voilà, vous nous retrouvez bien évidemment sur YouTube, sur le format vidéo. Allez, actionnez la cloche, abonnez-vous, laissez-nous des commentaires, la procédure habituelle. Et vous nous retrouvez sur le site officiel de Catchup, catchup.lepodcast.fr. Toutes les bonnes plateformes de podcast également, Apple Podcast, Podcloud, Spotify, Deezer, Google Podcast. Voilà, ça y est, j'ai fait le tour, je suis bon, je suis au taquet. Mon cher papy, merci de ta présence indispensable à cette review.
Mais merci pour ton invitation toujours chaleureuse et trépidante. Je suis impatient de la prochaine.
Voilà, alors la prochaine nous emmènera du côté de SmackDown. Sur les programmes, voilà, gros pay-per-view, dorénavant c'est SummerSlam hein, à l'horizon au niveau de la WWE le 23 août. Du côté de la All Elite Wrestling, vous allez avoir All Out, mais ça va se dérouler un peu plus tard, ça se passe le 5 septembre. Voilà, les deux gros pay-per-view annoncés là sur la fin de l'été. Voilà, ainsi s'achève cette review, peuple de catch-up. On vous fait des bisous, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch, on vous fait des cordes à linge plein la face. Salut papy!
Salut tonton et salut à tous.
Et salut peuple de catcheur. Catch Up Underground. Ils sont pas foulés pour le concept. Hein.